1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Et je suis Charles Danzig.
Et je suis Vanessa Wagner.
Je suis Mourkoff.
Et avec eux ce soir, il sera question de balancement littéraire et musicaux.
Ping-pong. La culture sans limite.
Oh, yeah.
Édito.
La culture sert à tout, même à aimer la politique. La nuit dernière avait lieu le débat télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump. Et les journaux nous l'ont vendu comme un duel, un face-à-face à haut risque et même le clash du siècle. Bref, on nous a fait la promotion d'un combat de boxe, nous invitant, comme en pareille occasion, à nous lever à 3h du matin ou à veiller, si d'ordinaire on se couchait de bonne heure, pour jouir en live et de toute la brutalité de ce spectacle. Ne manquait que Don King et des cordes autour du ring. Moi, tout à la fois excité et indocile, j'ai préféré me jeter nuitamment sur un livre signé Jacques Henrique et intitulé « Boxe ». Un livre où Henrique prend prétexte de la séduction sur lui exercée par le dos musclé de Jean-Marc Mormec et aussi une peignée reçue dans l'enfance pour nous entretenir du noble art de cogner et d'écrire. Rien à voir avec l'art politique, ai-je d'abord pensé. Et puis, je suis tombé sur cette citation du cyclone Barry McGuigan, rapportée par Henrique, cette réponse de McGuigan à un journaliste qui lui demandait « Pourquoi êtes-vous boxeur ?» Et le poids plume de répondre « Parce que je ne peux pas être poète. Je ne sais pas raconter des histoires. » Et j'ai soudain songé que l'homme politique, au meilleur de sa forme, de son éthos, était à la fois aide et gladiateur, poète et boxeur. Et j'ai lu ce matin un compte-rendu du débat Trump-Clinton qui annonçait la victoire au point de la guêpe sur l'ours amateur de godilles, à qui elle avait notamment asséné en direct, indirect, une phrase « Les mots ont de l'importance ».
Words matter. Words matter when you run for president, and they really matter when you are president. It is essential that America's word be good.
Trêve de confiserie, boxe de Jacques Henrique vient de paraître au seuil dans la collection Fiction et compagnie. Charles Danzig, de politique il est question, à l'orée de cet épais volume, les écrivains et leur monde sont au pluriel, comme les écrivains, dans lequel on trouve votre dictionnaire égoïste de la littérature française, augmenté, on trouve aussi la guerre des clichés, et puis un inédit, Ma République idéale, et vous écrivez que la littérature n'est pas de la hablerie de réunions publiques. Mais alors comme il y a des philosophes frôleurs de littérature en France, hein, ces philosophes qui, sans être écrivains, aimaient toucher la matière littéraire, est-ce que vous êtes sensible, peut-être nostalgique, des politiciens, des politiciennes, frôleurs ou frôleuses de littérature ?
Oui, parce qu'ils étaient hypocrites et moi je suis pour l'hypocrisie du pouvoir. Parce que ça veut dire que le pouvoir baisse la tête vers quelque chose qu'il estime un peu prestigieux. Quand les politiciens écrivent, je veux dire autre chose que des programmes électoraux, ils écrivent tous des programmes électoraux, ça n'est pas grave. Mais
parfois presque aussi épais que votre dictionnaire égoïste.
Quand ils écrivent de la fiction, tout le monde, il est très convenu de se moquer des romans de Giscard d'Estaing, qui sont effectivement très mauvais. Mais il ne faut pas oublier que Clémenceau avait écrit des pièces de théâtre japonisantes qui étaient catastrophiques.
Il y a eu Thierry Breton aussi qui a été ministre à un moment de l'économie, qui a écrit des romans de science-fiction, des trucs de polar de la net économie.
Il était peut-être de la science-fiction qu'il fut ministre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, en écrivant de la fiction, baissent la tête devant la littérature et reconnaissent que c'est quelque chose d'important. Donc même si c'est mauvais, l'acte symbolique est pour moi très important. Je rêverais que Donald Trump écrive un roman.
Pour l'instant, il tweet. Vanessa Wagner, vous êtes pianiste, interprète, concertiste, multi-récompensée, mais vous avez grandi dans ce pays qu'on appelle la littérature. Vous ne pouvez pas vivre sans livre. Est-ce que vous concevez que les politiques puissent s'en passer ?
Oh ben, les politiques d'aujourd'hui, j'imagine qu'ils s'en passent, et on l'entend d'ailleurs dans leur façon de nous parler. Enfin, c'est ce qui est stupéfiant, c'est qu'en entendant François Mitterrand, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cet homme, on a l'impression d'un total autre monde quand on entend que ce soit ses débats ou ses discours politiques. Ses références à la littérature sont incroyables, à l'art en général. Aujourd'hui, le niveau, même dans les mots qu'ils utilisent, ils se permettent un langage hyper familier. Certains utilisent ce qu'on appelle des gros mots. Enfin, et puis le niveau général a énormément baissé pour plein de, j'imagine, de raisons de populisme et de. Mais voilà, je sais pas s'ils sont très portés sur la grande littérature aujourd'hui.
De John Cage à Philip Glass en passant par Aphex Twin et de Proust à Zola en passant par Jennifer Lopez, la musique se relie et la littérature se redanse ce soir dans Ping Pong avec Charles Dantzig, Vanessa Wagner et Murkoff.
Ping Pong, la culture sans limite.
Je voudrais dire quelques mots aux amis des lettres françaises. Nous vivons une ère effrayante. Nous sommes, nous vivons et nous nous mouvons au milieu des héros et des monstres. Mes amis, il faut sans doute relever les ruines immenses de la guerre. Je ne suis moi qu'un homme de l'esprit, et même de ceux que l'on peut tenir avec d'autant plus d'assurance pour inutile que les temps sont plus misérables et les peuples plus occupés de leur subsistance et de leurs nécessités immédiates. Toutefois, tout ce qui distingue l'humanité, tout ce qui la relève quelque peu des conditions animales, est le fait d'un nombre restreint d'individus inutiles auxquels les hommes doivent de penser comme ils doivent aux laboureurs de quoi vivre.
Paul Valéry, en 1944, moqueur, hein, qui nous dit en même temps l'essentiel du rôle des hommes de lettres avec un presque, et d'ailleurs on s'en fout, qui paraît-il ponctuait toujours à la fin de ses phrases, histoire de faire exister une sorte de balancier, en tout cas de contrebalancer le poids de la déclaration. J'ai l'impression que ce soir il va être question de balancement. Statea, c'est le nom de cet album qui parle de balancement et d'équilibre, Murkoff et Vanessa Wagner, on va y revenir, et Charles Dantzig, de balancement que vous aimez chez Paul Valéry. Alors vous lui mettez quelques petits coups de fusil quand même, mais gentil, hein. Il est vague par excès de précision, vous raillez parfois sa minauderie de vieille dame qui sert le thé parce qu'il s'égare et que vous l'aimez, vous ne comprenez pas lorsqu'il s'égare, mais en tout cas ce qui est salutaire, j'ai l'impression, c'est le balancement. Vous dites ce côté moqueur de coulisses de théâtre. Et en même temps, voilà, cet absolu. Donc, qu'est-ce qui sert, chez Paul Valéry, pour vous, à fournir le désordre de l'esprit ?
D'abord, l'extrait que nous avons entendu était très touchant, car c'est 44 et il est mort peu de temps après, comme vous savez. C'était déjà un homme vieillissant. Et ce qu'il a de charmant, c'est effectivement ce que vous relevez, c'est-à-dire que c'est à la fois un grand penseur et qui n'a pas peur de la légèreté et de l'humour. Ce qu'il nous dit dans l'extrait qu'on a entendu, c'est au fond une variation sur la phrase de Malherbe qui me revient à l'esprit et qui est à savoir « Un poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles ». Et Paul Valéry savait très bien ça. Et en même temps, il jouait le jeu de l'institution. Et je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'il y a un mélange chez lui d'anarchisme et d'entrisme, en quelque sorte, dans l'institution, qui l'a rendu très utile. Parce que je pense que les écrivains, quand ils sont complètement en dehors de la société, ne réussissent jamais à la modifier par la force des choses. Et quand ils y sont trop, ils se gâchent et ils finissent par se confondre avec n'importe quel chroniqueur ou journaliste.
Il y a aussi un absolu dans l'écriture de Paul Valéry, à quelque chose que vous relevez de très altier. Il n'y a pas que, bien on va sûr, dire, le balancement entre des positions esthétiques. C'est bien aussi sûr entre l'écriture et ce qu'il dit.
C'est un merveilleux styliste, pour employer un mot auquel je ne crois pas beaucoup. Il a tenu toute sa vie la ligne de la littérature avec une élégance et une force remarquables. Vous savez que quand il est entré à l'Académie française, il a succédé à Anatole France. Il a refusé de prononcer le nom d'Anatole France dans son discours parce que des décennies avant, Anatole France avait refusé son maître Stéphane Mallarmé dans une anthologie de poésie. Je trouve ça très beau. C'est par des duretés comme ça que la littérature se maintient. Et ça, Paul Valéry, pour ça, a été merveilleux.
Oui, Paul Valéry ne manque pas de courage. Alors, quand il entre à l'Académie, et également quand il prend la parole sur les ondes, comme ici en 1944 et déjà plus avant, plutôt pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a tenu à donner des conférences pour dire l'importance de cette inutilité des hommes et des femmes de lettres.
Je peux vous interrompre ? Il a fait aussi pendant la guerre une chose très bien, c'est que lui qui partait de loin de ça, il a prononcé l'éloge de Bergson alors que c'était Bergson avait été obligé de porter l'étoile jaune et il a pris le risque de faire ce grand discours.
Oui, parce qu'il y a des écrivains lâches dans votre dictionnaire égoïste de la littérature française, Charles Dantzig. On ne reviendra pas, ou on reviendra peut-être, sur l'article qui est consacré à Louis-Ferdinand Céline. Et puis, il y a des écrivains courageux. Le courage, c'est une question qui vous importe. Vous avez créé une revue qui porte ce titre. lettre. Et vous pouvez écrire dans Ma République idéale, donc qui ouvre ce volume chez Robert Laffont, que le courage est une forme de l'enfance. Alors, écrire demande du courage, c'est une escalade, dites-vous aussi. Est-ce que écrire exige donc une part d'enfance?
Je pense très probablement, ça exige une part de naïveté, c'est-à-dire qu'il faut se mettre, je crois, quand on est écrivain, dans la posture de celui qui ne sait pas ou qui fait semblant de ne pas savoir. Un peu comme quand on est enfant, on fait semblant de regarder ou de ne pas regarder entre ses doigts écartés. Car si on prend la posture, c'est la grande différence, Martin Kenen, vous devez le savoir, entre la philosophie et la littérature, c'est que le philosophe postule le savoir ou en tout cas qu'il le recherche. La littérature ne recherche pas la même chose.
Elle dissimule le moteur, dites-vous,
voilà.
La voiture.
Et l'écrivain cherche plutôt à capter les choses un peu subrepticement et par la forme, ce qui est tout à fait différent. Et il y a une part de jeu dans la forme. Je ne dis pas que les philosophes ne jouent pas. Il n'y a pas très longtemps, je suais à essayer de lire du Heidegger. Et je trouvais qu'il avait d'ailleurs quelque chose d'un peu danseuse du ventre, comme ça, dans sa manière de vouloir faire de la littérature d'une certaine façon. Enfin, je me trompe peut-être, mais il me semblait ça. En tout cas, je crois qu'il y a cette part d'enfance dans la part de jeu. Et parfois, le jeu est le risque dans la littérature. C'est-à-dire, au fond, on jette une balle et parfois elle ne retombe pas, mais parfois quand elle retombe là où on ne sait pas, parce que la littérature ne sait pas ce qu'elle va chercher.
Alors, il n'y a rien de plus sérieux que les jeux d'enfants. On le sait, pour avoir peut-être observé des enfants en train de jouer. Mais précisément, si on parle de jeux et de doigts écartés, je me tourne vers vous, Vanessa Wagner, pianiste, qui donc, avec la complicité de Murkoff, proposait ce nouveau disque Statea, où vous tressez ensemble vos inspirations. Il y a quelque chose, pour vous, de l'enfance, peut-être dans cette vocation de pianiste et cette décision de jouer toute votre vie, mais peut-être plus particulièrement dans ce projet commun avec Murkoff?
Il y a quelque chose de l'enfance, évidemment, puisque quand on devient pianiste, on commence très tôt et moi, je sais pas vraiment si je l'ai décidé, petite fille. Ça s'est plutôt imposé à moi parce que c'était quasiment une évidence pour mon entourage. Et puis parce que moi, finalement, j'ai appris à faire ça. J'ai aimé et pas aimé du tout, parfois aussi. Ensuite, ce projet me ramène, en tout cas, à mon adolescence, parce que en fait, je n'ai eu de cesse d'essayer de clamer une certaine forme de liberté dans un métier qui est quand même assez contraignant et dans un chemin qui l'est peut-être encore plus, où on nous dit de façon, c'est vrai que très vite on m'a dit, tu seras pianiste, tu seras soliste et tu joueras tel répertoire et tu essaieras de jouer dans telle salle et telle salle, et finalement cette façon de faire ce métier qui ressemble à beaucoup d'autres et qui est très belle, enfin, mais qui, voilà, qui est déjà un chemin qui a été parcouru par beaucoup d'anciens et qui est encore parcouru par aujourd'hui des milliers de jeunes qui essayent de grimper cette montagne. Moi, je me suis toujours un peu trouvée, un peu à côté, et même quand j'ai joué le jeu à fond, puisque je l'ai joué et j'ai aimé de jouer ce jeu et d'être dans cette carrière, j'ai toujours senti quelque chose où j'avais besoin d'être un peu, de trouver ma singularité et ma liberté. Et un projet comme j'ose faire aujourd'hui avec Fernando, c'est un pas de plus vers cette liberté, vers cette ouverture.
C'est vrai, Vanessa Wagner, que vous soulignez que ce problème de cloisonnement artistique et social vous gêne entre les musiques érudites et les musiques populaires, hein, au-delà des hiérarchies dans la musique que vous évoquiez. On retrouverait presque des mots de Charles Danzig, hein, qui dit que lorsque la littérature est bonne, voire très bonne, eh bien, les genres littéraires n'existent plus. Cette classification, on est au-delà. Donc, je voudrais qu'on s'intéresse à votre partenaire, Murkoff, qui est assis avec nous à la table de ping-pong. Est-ce que, justement, vous qui avez grandi un petit peu entre Schoenberg et la musique électronique allemande des années 90, Murkoff, est-ce que c'est ce décloisonnement qui était nécessaire dans le projet avec Vanessa Wagner?
Si, bueno, yo no, a la hora de trabajar, no veo fronteras.
Au moment où je me lance dans le travail, c'est vrai qu'il n'y a pas de frontières musicales, tout reste un terrain de jeu, et c'est un territoire qu'il faut explorer.
Je tomé la musique.
J'ai grandi dans un entourage de musiciens. Mon père était musicien. Nous avions beaucoup d'instruments à la maison. On faisait des boeufs musicaux. On écoutait de nombreux disques, notamment avec des amis de mon père, et ceci depuis mon plus jeune âge. Mais c'est jusqu'à l'adolescence que la musique m'est vraiment tombée dessus et je me suis rendu compte que la musique était une langue à part et très puissante. J'ai tout de suite pris conscience que la façon dont je pouvais m'exprimer était compliquée. C'est-à-dire, j'avais du mal avec les mots à exprimer ce que je voulais dire. Et c'est vrai que je pouvais être sauvée à travers la musique et pouvoir exprimer ce que j'avais à dire. Et un des nombreux disques qui m'a vraiment atteint est un auteur allemand qui s'appelle John Santo. Et c'est John Santos plays back, et ce qui ressemble à Wendy Carlos. Et alors le nom dit tout, c'est classique, mais en même temps avec des outils électroniques. Et tout est dit, à partir de ce moment-là, je me suis lancée dans ces deux chemins de classique et d'électronique.
Il faut dire que dans ce qui vous rassemble avec Vanessa Wagner, c'est une création qui a mis du temps. C'est-à-dire on a mis à peu près 6 ans à élaborer cet objet qui tente de capturer ce qui vous est arrivé sur scène. C'est-à-dire que comment justement ça s'est tressé cet univers qui vous fait vous balader de John Cage à Philip Glass en passant par Aphex Twin, Vanessa Wagner?
On a mis beaucoup de temps parce qu'on a presque commencé par hasard. On partageait une soirée d'un concert classique que moi je donnais et d'un concert électronique qui poursuivait la soirée. Et pour relier ces deux moments, on a tenté en improvisant comme ça autour de Satie, une collaboration qui devait a priori rester éphémère. Et en fait, on a eu une sorte de déclic, d'envie. 2 ans plus tard, j'ai invité Fernando lors d'une résidence à l'Arsenal.
Fernando, c'est
Murkoff.
Fernando Corona, voilà, c'est son vrai nom et Murkoff, c'est son nom de scène.
C'est ça. Et on a fait notre premier vrai concert après quelques jours de résidence ensemble à travailler. Et on a choisi, j'ai proposé à Fernando de travailler autour des minimalistes parce qu'il y a une vraie connexion entre la musique répétitive minimaliste et la musique électronique actuelle. Beaucoup de producteurs électroniques se réclament de ce courant-là.
Notamment Aphex Twin.
Notamment Aphex Twin, absolument. C'est pour ça qu'il figure aussi, lui, sur ce disque. C'est un petit clin d'œil. Et puis, je savais que Fernando était un immense adorateur de Arvo Pärt. Enfin, qu'il écoutait vraiment beaucoup, la musique de John Cage, de Steve Reich. Donc, on a élaboré, au fur et à mesure des concerts, ce programme de disques qui sort aujourd'hui. On a pris beaucoup de notre temps parce qu'on a aussi des emplois du temps très chargés l'un et l'autre. Que moi, au départ, j'avais pas forcément envie, l'idée que ça sortirait un jour en disque. J'ai vraiment attendu, d'être totalement en confiance et ce que je suis absolument aujourd'hui avec lui.
Alors, vous écoutez, on imagine, a priori, qu'il y a peut-être quelque chose d'oxymorique à réunir ainsi une pianiste soliste à la carrière de concertiste et un expérimentateur de la musique électronique. Il y a des oxymores aussi dans votre dictionnaire égoïste de la littérature. Charles Danzig et les oxymores, vous soulignez leur fausseté. On en use, on en abuse, comme du cliché, jusqu'à perdre leur puissance. Et pourtant, si on rassemble, si on fait une concaténation de certaines de vos déclarations, vous pouvez dire que les livres sont des bombes et que les livres sauvent le monde. Donc si je comprends bien, les livres sont des bombes qui sauvent le monde. Encore un oxymore.
La contradiction n'existe pas en art, Martin Kenner. Je veux dire par là qu'une bombe peut sauver le monde. Un livre est une bombe dans le sens où il installe un désordre. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que la littérature, et je pense probablement toutes les formes d'art, sont là pour installer une forme de désordre ou de dérangement de ce que j'appellerais le désordre établi, parce qu'on croit que l'ordre est un ordre, mais l'ordre n'est pas un ordre. Tout ce que nous avons devant nous qui se fait passer pour un ordre n'est qu'un désordre mal fait, mais qui est là depuis longtemps. Et la littérature sert à ça. La littérature, je crois, sert à dire à la vie, regarde ce que tu te caches. Si je peux vous donner, parce que la vie a un fonctionnement, la société en général a un mode de fonctionnement qui consiste à avancer en se cachant le maximum de choses parce que ça arrange le pouvoir, parce que évidemment la routine et les individus. Mais la littérature vient pour déranger ça. Si vous prenez, par exemple, ça se fait par exemple par la création de personnages qui n'avaient jamais existé. Si vous prenez William Faulkner est l'écrivain qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a mis dans un roman un personnage de handicapé mental. C'est une chose prodigieuse. Évidemment, comme on a lu son livre, il a eu du succès, on ne voit plus la nouveauté de cette chose. Mais pensez que tout d'un coup, en 1930 et quelques, dans le bruit et la fureur, tout d'un coup, on voit apparaître le premier handicapé mental. Ça veut dire, ça dit à la vie, regarde ça que tu ne veux pas regarder. Et ça arrive en permanence. Jean Genet a fait ça avec les travestis, enfin on pourrait, voilà.
Et donc je vous propose d'écouter une interprétation de Satie qui n'avait jamais existé.
Distorsion sonore qui précède l'agnosienne numéro 3 que vous aurez peut-être reconnu d'Éric Satie. Nous sommes dans les balancements de Vanessa Wagner et Murkoff. Saltea, ce mot italien que vous avez trouvé pour parler de cet équilibre aérien où tout d'un coup on part en apesanteur avec la partition, c'est un chef-d'œuvre, cette agnosienne. Oui. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Un chef-d'œuvre, c'est-à-dire une œuvre qui crée elle-même son propre critère. Si je suis les critères de Charles Danzig, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Pourquoi vous l'avez retenue dans votre collaboration avec donc Murkoff qui fait ses distorsions sonores et vous cette interprétation organique, Vanessa Wagner?
Alors on l'a retenue d'une part parce que c'est la toute première œuvre qu'on a donc tentée ensemble comme ça un soir d'août dans les carrières du Normandou, et puis parce que justement on a trouvé que... Enfin, moi, j'ai trouvé complètement mon équilibre à la jouer avec lui. D'ailleurs, quand je la joue, les fois où je la joue toute seule, j'entends presque les sons de Murkoff dans ma tête qui sont là. Et c'est vrai que il m'a semblé que ça fonctionnait complètement et que cette bizarrerie qu'il y a toujours chez Satie, même dans une œuvre comme celle-là, qui est certainement la plus grand public, on va dire, parce qu'il y a des œuvres bien plus folles dans son répertoire, qui est assez peu connue finalement. Cette bizarrerie-là de distorsion sonore fonctionnait vraiment bien avec son univers.
Murkoff. On entendait donc ces sonorités qu'on peut peut-être ressentir comme telluriques associées à la musique d'Eric Satie sur cette gnossienne. Vous avez pu dire que vous étiez intéressé par le travail de la matière sonore comme une matière baroque. Baroque, c'est ce qui est irrégulier, c'est cette fameuse perle pleine d'aspérité. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a de... Quelles aspérités y a-t-il, quelles irrégularités dans votre travail, votre interprétation de tous ces grands compositeurs, Ligeti, Arvo Pärt, Cage, Glass, et j'en passe par Satie.
La façon dont je travaille est vraiment avec le son à l'état pur. J'aime vraiment la texture du son et je dirais même plus que l'harmonie qui s'en dégage. Pour moi, c'est très important de me concentrer et je me suis toujours concentrée sur cette texture même du son. Et mon intérêt même pour la musique électronique est ouvert par ces possibilités d'étendre, de travailler sur les sons acoustiques avec lesquels généralement je travaille. C'est-à-dire tous les sons dans mon travail viennent de sources acoustiques, que ce viennent d'instruments enregistrés en acoustique ou alors des prises de son dans la nature, que ce soit le vent ou l'eau. Ce sont des points de départ qui par la suite sont des matières premières, des matières brutes avec lesquelles je travaille et avec tous les instruments numériques que j'ai dans mon studio.
Et vous apportez donc de l'impureté au son du piano de Vanessa Wagner, mais à propos d'impureté, je crois qu'il en faut, selon vous, Charles Danzig, pour écrire l'impureté de la biographie serait une des conditions de la naissance d'un livre, l'impureté de la biographie de son auteur, de l'écrivain, pour que naissent donc des livres parfois réussis. Ajoutez-vous, vous aussi, vous êtes sinon baroque, un homme impur pour oser vous mêler d'écriture, de littérature, vous le romancier, le poète et l'essayiste.
Probablement, en tout cas impudique. En tout cas impudique, car moi j'ai toujours eu le sentiment que quand je publiais un livre, je me promenais tout nu dans la rue. Heureusement, les gens ne voient rien.
Et j'ai un peu la même sensation sur scène, moi.
Ben voilà, c'est à peu près là.
Formidable, on a le droit à un morceau en direct dans un instant.
Il y a une grande forme. D'ailleurs, j'étais en train de penser que votre titre, La Statea, ça pourrait être le titre d'un opéra de Purcell. Ça peut être un titre d'opéra baroque aussi. En tout cas, l'impureté... Vous savez, on considère trop les écrivains, mais probablement à cause de l'enseignement, comme... des êtres sans corps et en dehors de la vie. Moi, quand j'étais petit, on m'enseignait à l'école la poésie de Verlaine, mais l'homme Verlaine, personne ne me disait ce que c'était. Or, pourtant, l'homme Verlaine est dans sa poésie. Et même des écrivains qui ont l'air tellement en dehors de leur œuvre, comme Samuel Beckett, est quand même dans son œuvre. Et ça, je trouve que c'est une forme d'injure à la littérature de vouloir la priver de ça. Parce qu'après tout, ça en fait partie. Et puis moi, je le sais, moi je suis écrivain, je voudrais pas que quand on parle de mes livres, tout d'un coup, j'en sois abstrait. Évidemment, idéalement, je trouverais merveilleux qu'on dise « Mon Dieu, ça ressemble à une partition de Haydn ou à une sculpture de Henry Moore. » Mais quand même, je suis mêlé à ça. Et c'est la singularité, je crois, de la littérature, que justement, le corps des écrivains et leur sensibilité y soient mêlés. Je pense que la littérature, la langue de la littérature, est la seule qui ait cette impureté. Et c'est ça, cette forme d'archaïsme de sa langue, qui fait que quand ça réussit de façon merveilleuse et peut-être mieux que les autres. La langue de la philosophie n'a pas ça. La langue de la politique n'a pas ça. Aucun langage n'a ce mélange avec le corps et la sensibilité et l'émotion.
Vous avez donc défini la littérature et ce ressenti que vous avez par rapport à elle. Vous avez aussi cette sculpture qui vous fait, la poésie qui vous fait penser à une sculpture. Vous avez comme ça ces correspondances entre les arts, la musique. En un mot, ça vous évoquerait quoi justement comme parallélisme, Charles Danzig ?
Je crois qu'il existe un seul art. De la même façon que je ne crois pas qu'il existe réellement du roman, de la poésie, du théâtre. Évidemment, on peut dire que comme ça, ça existe. Mais le résultat de tout ça, c'est la poésie. Et je pense qu'il n'y a pas de différence essentielle à part le mode de, au fond, des cailloux qu'on prend pour raconter notre histoire. Moi, c'est de l'encre avec des mots. Eux, c'est des notes. Et un écrivain, et un peintre, c'est des couleurs.
C'est Apollinaire qui les réunit dans votre article.
Oui.
Apollinaire, le chanteur.
Ah oui, bien sûr. Je pense qu'il existe un seul art et qu'il y a des modes plus ou moins archaïques de raconter ça. Nous sommes des archaïques, vous comprenez, les écrivains. C'est pour ça que les écrivains sont aussi des artistes. On est tous avec nos joujoux. Vanessa Wagner est devant un piano. Un piano, c'est un énorme joujou. Un peintre est avec des couleurs. On fait des choses sérieuses à partir d'instruments pas sérieux. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui prend les joujoux au sérieux.
Il est des livres qui vous emmènent vers d'autres livres et des disques qui vous emmènent vers d'autres disques. C'est aussi pour ce petit miracle, cette petite porte qui s'ouvre, que la vie vaut d'être vécue. Car comme vous le savez, la littérature est l'aveu que la vie ne suffit pas, la musique aussi. Votre lecture organique et électronique, sacrée, profane, apollinienne et dionysiaque des œuvres de John Cage et Philip Glass, entre autres Statea. On va la découvrir en live, notamment autour d'un titre du musicien électronique Aphex Twin. Vanessa Wagner et Murkoff dans Ping Pong. Bravo. Au-delà des nuages, au-delà des clivages, la relecture du musicien électronique Aphex Twin alias Richard D. James par Vanessa Wagner au piano et Murcuff aux déflagrations sonores. Vous retrouverez cette écoute que je vous conseille à la fois basse et haute, les deux sont possibles et les expériences n'ont rien à voir. Sur l'album Statea qui vient de sortir, il y a aussi une date en live, on pourra vous voir notamment le 11 octobre du côté du Café de la Danse à Paris. Justement, pour revenir sur les choix de ce disque, je voudrais vous demander, Vanessa Wagner, pourquoi il y a quelque part une sorte de résolution? On a l'impression qu'on passe par une crise très grave avec les œuvres de Ligeti qui nous emmène dans un univers extrêmement sombre, une sorte de reflet plutôt angoissant du monde contemporain, puis quelque chose de très mystique, une sorte d'envolée salvatrice avec Silvetrov. Est-ce que c'était ça, un petit peu un chemin un peu spirituel, un chemin un peu philosophique, la composition de ce disque?
Oui, il y a de ça, clairement. On avait envie de rester dans un univers de toute façon plutôt effectivement mélancolique. On voulait surtout pas aller dans un côté un petit peu dance, électro, revisité. C'était pas du tout le propos. C'est effectivement un voyage, une ode à la lenteur, à l'introspection, à la méditation. Fernando est quelqu'un de très profond qui fait régulièrement des retraites méditatives dans le silence. Moi, je suis aussi assez portée sur le spirituel. Enfin, voilà. Non religieux, mais en tout cas une certaine quête de soi. Et c'est vrai que on aime tous les deux aussi la musique triste, on va dire. En tout cas, moi, c'est dans la musique classique, je n'écoute quasiment que des musiques qui me bouleversent, qui me font. Vous parliez de bombes.
Charles Bondy, qui est très à vos côtés.
Au sujet de la littérature, et c'est vrai que ce soit des livres ou certaines pièces de musique ont été pour moi des bombes qui m'ont explosé à l'intérieur, qui font qu'on se connaît mieux, qu'on se questionne mieux, plus loin, et c'est la force de l'art, ouais.
Oui, vous parlez de souffrance et vous parlez de la profondeur du travail de Fernando Corona alias Murcuff à vos côtés. En effet, écoutant ce titre d'Aphex Twin, donc Avril 14, le 14 avril, pourrait-on traduire en français, j'ai l'impression qu'en effet, avec son travail sur la matière sonore électronique, il abîme, peut-être au double sens du terme, votre jeu au piano, dans le sens où il le rend irrégulier et puis il le plonge comme ça dans les profondeurs. On avait l'impression d'entendre le sable jouer au fond de l'océan. Vous parlez de tressage à propos de votre travail avec Murcuff, Vanessa Wagner. Et le tressage, c'est aussi la matière du plasticien François Rouen qui tresse des bandes de papier autour du vide, autour de l'indicible. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'indicible ou d'insaisissable dans la musique autour duquel vous tournez, que vous essayez d'étreindre dans cette association avec Murcuff?
Bah, l'indicible, je sais pas si j'essaie de l'étreindre, parce que c'est justement ce vide là qui est si troublant et qui est en même temps ce qui fait la beauté, c'est cet indicible, c'est ce je ne sais quoi qu'on ne sait pas vraiment comprendre, qu'on ne sait pas justement traduire par des mots.
Alors, vous cherchez quoi alors?
Dans
vous cherchez quoi au fond de l'océan dans... avec cet album Statea?
Au fond des machines aussi.
Je cherche, comme je le disais tout à l'heure, une certaine forme de liberté et de non-docilité et de d'expérimentation et de c'est je sais pas si c'est une vraie recherche. En tout cas, si ce que j'ai cherché en faisant appel à Murcuff, c'est ce qu'il disait au sujet de la matière sonore, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui utilise les machines pas pour faire danser, mais pour aller triturer le son, chercher des sons extrêmement profonds, extrêmement que moi je ne peux pas produire avec mon piano. Donc il augmente et il l'abîme dans plein de sens, c'est-à-dire vers le haut, vers le bas, et c'est ça que j'ai cherché dans un projet comme celui-là, c'est aller. Je fais d'autres. Je fais par exemple du pianoforte.
Clavecin, pourrait-on dire pour
non,
clavecin.
Ah non, ce n'est pas du tout la même chose.
Pour la sonorité, un béotien comme moi.
En fait, le clavecin, c'est vraiment encore un instrument différent, mais j'ai cherché. C'est vrai que c'est pas naturel, on va dire, qu'un pianiste qui joue des grands concertos, etc., s'intéresse forcément forcément, en tout cas c'est pas le chemin obligatoire de s'intéresser aux instruments d'époque. Et moi j'ai été chercher dans ces instruments une façon d'appréhender et ce métier et le son du piano et la façon de le faire. Parce que c'est vrai qu'un pianofortiste est pas du tout starifié comme peuvent l'être. On verra jamais un pianofortiste mis sur le rang d'un langlang par exemple. On est beaucoup plus fragilisé par rapport au son de cet instrument, etc. Et finalement, c'est une démarche qui me semble très cohérente entre ce que je fais au pianoforte et ce que je fais avec Fernando. C'est des aspérités dans mon métier et des extrêmes qui se rejoignent.
Murkoff, vous cherchez un peu à la manière de Vanessa Wagner qui va jouer sur des instruments d'époque, des pianofortes. Vous cherchez le son de l'origine avec vos machines. C'est ça, cet insaisissable que vous essayez de saisir?
Murkoff se rapproche de...
Très bonne question. Très bonne question. J'imagine que la musique est très primitive et le son reste primitif. Et donc à travers le son, on peut dire qu'il y a une recherche de l'origine. Et avec les machines, j'ai cette possibilité de me lancer dans des territoires qui me seraient peut-être difficiles d'atteindre ou que je ne me sens pas capable d'atteindre. Et ceci, c'est lié à mon éducation, à l'entourage dans lequel j'ai grandi. Et c'est vrai que pour moi, la musique numérique, c'était comme une bague à mon doigt, quelque chose d'idéal. Et quand j'étais petit, j'étais toujours attiré par ces machines. Et comme je vous le disais précédemment, quand je suis devenu adolescent, quand j'ai grandi et quand j'ai eu ce besoin de m'exprimer et de dire des choses plus profondes, la musique électronique m'a offert ça sur un plateau. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle fait partie de moi. C'est comme une prothèse, en quelque sorte, qui maintenant me nourrit. Mais même si elle ne me nourrit pas, je continue à l'utiliser pour continuer à explorer, retrouver cette origine en moi, mais également à l'extérieur. C'est une façon de vraiment être entré en relation avec le monde. C'est un pont.
C'est une deuxième naissance, comme le dit Charles Dantzig de la littérature. Murkoff, la musique
en général,
cette découverte de la musique électronique.
Plus qu'une renaissance, comme je te le disais, c'est plus un véhicule qui me permet d'expliquer, de raconter mon histoire personnelle, mais aussi rechercher l'inconnu, découvrir cet inconnu. Parfois, je me surprends au moment où je compose une œuvre et lorsque j'y reviens et je comprends à la lumière de ce qui se passait à ce moment-là quand j'étais en train de la composer. C'est un peu comme un journal abstrait.
J'aurais dû comprendre et j'aurais dû savoir avant de venir parce que je connaissais votre émission, mais quand on est invité, c'est pas la même chose que quand on écoute. Et non, mais c'est très intéressant parce que de réunir des gens qui font des choses qui ne se ressemblent pas, et je viens de comprendre que tous les trois, on avait quelque chose qui pourrait être en commun et qui m'intéresse beaucoup, qui est ce que je pourrais appeler l'esthétique de la bousculade. Quand je les entendais tout à l'heure, j'avais l'impression...
C'est de Villon à Sagan, dans votre dictionnaire égoïste.
Et le désordre de l'esprit de Paul Valéry qui a ouvert cette émission.
Quand je les entendais jouer tout à l'heure, j'avais un peu l'impression d'un petit soldat qui titubait dans une tempête, comme ça. Et je comprends ce que vous vouliez dire, Vanessa Wagner, c'est-à-dire que vous exercez un métier qui est passionnant et qui doit être aussi atroce parce que vous avez des répétitions et vous êtes dans un métier excessivement réglé, devant des partitions qui ressemblent à des grillages de prison. Et j'imagine que de temps en temps, on doit avoir envie de se libérer de cet ordre.
Un peu végétalisé, quand même, ces grilles de prison.
Ce que vous faites là. Et je trouve que dans la littérature, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est bousculer les gens et bousculer les formes. Ce que je fais dans mon dictionnaire, on me l'a parfois reproché, c'est je bouscule les écrivains, mais je les bouscule parce que je les aime. Moi, je trouve que rien n'est pire que de considérer les artistes comme des statues. Les artistes, que ce soit les écrivains, les musiciens, les peintres, qui on voudra, ça n'est pas Bernadette Soubirous à Lourdes devant laquelle on doit s'agenouiller en chantant des chants religieux.
Vous n'avez pas d'épiphanie quand vous écrivez?
Non, je suis trop concentré pour ça. Je pense que les écrivains, les artistes, les musiciens, on peut les bousculer comme on bouscule les gens qu'on aime en leur disant « réveille-toi, ne fais pas ça ». Et ça veut dire simplement qu'on les aime davantage et que ce sont des êtres vivants parce que le temps n'existe pas non plus en matière d'art. Je ne vois pas... Si on réfléchit vraiment à part sur la période qu'ils décrivent, mais enfin même pas, prenons un poète. Mallarmé pourrait être un poète de 1600, il se trouve qu'il est de 1880. Rien dans sa langue ne nous fait dire qu'il est du 19e siècle. Les temps n'existent pas. Et donc, c'est tout ça, c'est ces bousculades-là qui produisent du sens. Si on reste perpétuellement dans l'idée de la chronologie du temps, que finalement 1881 a succédé à 1880 et que Flaubert a succédé à Balzac, tout ça, c'est des idées fausses et mécaniques. Et je pense qu'il faut en permanence bousculer tout ça parce que sinon on s'installe dans un confort de pensée.
Ben, je voudrais vous citer hein, Charles Dantzig. Vous avez par exemple que Huysmans, c'est un condensé de ce qui vous répugne en littérature. Il a tous les défauts de la vulgarité qu'on reproche à Zola. Et Zola n'est pas vulgaire.
Non,
le
bien sûr que non.
Le 8e jour, Dieu créa Paul Claudel. Il a eu envie de se moquer du monde. Et puis, les prophètes, c'est fait pour monter sur un caillou et agglomérer les déçus et les méchants. Vanessa Wagner, au-delà des aphorismes de Charles Dantzig, qui est par ailleurs traducteur d'Oscar Wilde, qui nous éclaire un petit peu. Est-ce que vous avez un rapport comme ça dans la bousculade aussi aux grands maîtres classiques?
Alors j'ai une double culture de ce côté-là parce que enfin j'ai une nature et une culture on va dire de culture je serais plutôt très respectueuse et j'ai été élevée si je puis dire dans le respect de ces grands musiciens du style musical voilà respecter tel style à telle époque et c'est vrai que je n'aime pas les jeux provocateurs juste parce que c'est un genre qu'on se donne, etc. Donc j'ai toujours fui plutôt cette légèreté dans l'interprétation. Et de nature, je suis, on m'a dit plusieurs fois que j'étais une punk. Et alors je ressemble pas du tout à ça, mais j'ai sûrement quelque chose en moi de très qui ne veut pas aller dans l'ordre établi. Et j'ai été toujours assez réfractaire à l'autorité. Donc c'est en ça que je pense que j'ai choisi cette lignée.
Et vous bousculez les maîtres ?
Je les bouscule à ma façon. Je les bouscule plus pas quand je joue. Je pense pas avoir un jeu très. J'ai un jeu qu'on dit personnel, mais en fait je le fais pas du tout exprès.
Vous sauriez le décrire, puisque ce qui importe à Charles Dantzig, c'est
me décrire.
La façon de dire, c'est
elle
d'écrire.
Elle n'a pas de crête. Déjà.
Non, pas votre apparence bien punk que vous ne le prétendez, mais votre jeu, puisque vous parlez de jeu. Moi, je pensais au toucher, le fait de dire en littérature. Pour une pianiste comme vous, alors pour moi c'était le toucher, oui, peut-être est-ce le jeu. Vous avez réussi à mettre des mots dessus.
C'est compliqué de décrire mon jeu pour
ni
moi.
Ni légère ni provocante, avez-vous dit.
Pardon.
Ni légère ni provocante.
Non, je pense. Enfin, je c'est compliqué sans que ça paraisse prétentieux ou quoi. En tout cas, je mets de l'intensité dans mon jeu et je fais très attention à la profondeur du toucher, à sa diversité. Et le son pour moi est extrêmement important. Je sais que j'ai horreur des jeux m'as-tu vu, des jeux durs, des jeux hyper virtuoses. C'est pas du tout ce qui m'intéresse en musique. Et vous disiez que effectivement, lire une partition, apprendre les notes, c'est un métier d'une exigence folle, mais c'est en même temps, à l'intérieur de ça, on y trouve une grande liberté et une connaissance de soi aussi qui est sans limite, parce que à travers les œuvres, c'est pour ça que j'ai jamais eu l'envie ou le besoin d'aller composer mes propres œuvres, parce que je trouve, rien que dans Schubert, qui est le compositeur que j'adore le plus au monde, je trouve des portes infinies à l'expression de mon mal-être ou de mon bien-être, mais en tout cas, voilà, de ce que j'ai en moi à sortir. Et ce qui est formidable, c'est que chaque interprète a sa chose à dire à travers les compositions.
Charles Dantzig, vous notez, vous bouillonnez.
Oui, oui, non, c'est parce que je ne voudrais pas oublier. D'une part, nous sommes d'accord, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut casser pour casser. Je pense qu'on ne peut bousculer qu'à partir du moment où on a une culture. Et ça, c'est très important. On ne peut, et d'ailleurs, on est beaucoup plus détendu quand on a une culture. Moi, je n'ai aucun problème à citer Dalida parce que j'ai lu Sophocle. Et je pense que ça va.
Et Jennifer Lopez.
Et ça va ensemble. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est toujours très... On a un autre point commun, c'est Schubert. Ça fait des années que j'essaie d'écrire un poème sur une valse sentimentale de Schubert. Et j'ai compris que j'ai arrêté de vouloir l'écrire parce que je me suis dit quelle idée inepte, il a écrit ça, pourquoi aller mettre des mots là-dessus. Et bien de la même façon, je comprends que votre gêne a à vous définir. D'abord, c'est toujours un peu présomptueux de se définir. D'autre part, c'est difficile. Et en plus, un mot est une prison. Quand je vois dans le communiqué de presse minimaliste, moi j'adore la musique minimaliste, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire minimaliste? Qu'est-ce que ça veut dire baroque? Tout d'un coup, on s'enferme dans quelque chose, dans une catégorie qui est commode pour la conversation, mais qui est toujours fausse, non?
Alors, il y a de la bousculade chez vous, Charles Danzig, de Sophocle à Dalida. Quant à Murkoff, c'est de Tangerine Dream à Stockhausen. Et vous dites, à l'occasion, Vanessa Wagner, que c'est de Rameau à Berlioz.
À partir de quel moment, pour vous, commence la musique? Parce que ce son isolé, comme celui-ci, peut servir à faire de la musique. Alors, à partir de quel moment, pour vous, commence la musique?
Du moment que cette taque est placée dans un rapport complexe avec les autres éléments, avec lui-même, du moment qu'il participe à une structure.
Mais sans aucun a priori et sans aucun parti pris quant au choix de ces éléments sonores.
Mais évidemment, le choix détermine la structure. Même si ce n'est pas la forme, c'est la formation des choses qui compte. À partir de cet élément, de démontrer comment se transforment les choses. Ça, c'est la musique, ça, c'est le théâtre, ça, c'est la poésie.
Luciano Berlioz sur les ondes de France Culture en 1968. Il est donc dans votre panthéon aux côtés de Schubert, Rameau et Aphex Twin que vous avez interprété tout à l'heure avec Murkoff. Murkoff, cette question, non pas de la forme, mais de la formation des sons qu'évoquait à l'instant Luciano Berlioz. Cette alchimie, c'est quelque chose qui vous taraude aussi? Qui vous anime?
Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Alors, en tout cas, selon ce que j'ai compris, fondamentalement, pour moi, il n'y a pas vraiment une vraie distinction entre le bruit du vent et le bruit, ou le son d'un orchestre qui va interpréter une pièce de Beethoven. Je crois qu'en commun, il y a la vie sur ces deux sons. Et moi, j'essaie de travailler à partir de ce point de départ. Bien évidemment, après, la façon dont fleurissent ces différentes expressions sonores n'a rien à voir. Mais j'essaie toujours de revenir à cette origine parce que je sens que ainsi, j'obtiens beaucoup plus de liberté et je peux travailler avec des sons qui ont des origines tout à fait différentes.
Justement, Murkoff, je voudrais savoir s'il y a des... On va dire des choses dans votre panthéon musical, finalement, que vous n'avez pas écouté. C'est-à-dire que ce que j'ai bien aimé dans le livre de Charles Danzig, son dictionnaire égoïste de la littérature française, c'est qu'il y a des chefs-d'œuvre absolus qu'on n'a pas lus, comme Les Misérables, par exemple, de Victor Hugo. Est-ce qu'il y a des chefs-d'œuvre absolus comme ça, dont l'idée, dont l'absolu esthétique vous parle, mais que finalement vous n'avez jamais écouté, Murkoff?
Bien évidemment. J'ai une liste très très longue de tous ces chefs-d'œuvre que je devrais écouter. Il y a peu de temps, j'étais en Hongrie et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup à apprendre de cette musique folklorique hongroise de Ella Bartok, de Stanko Dali, tous ces grands musiciens. Et il y a d'autres musiques qui m'intéressent, qui viennent peut-être d'un genre plus ethnique, qui viennent de ces cultures natives et qui ont une relation très proche avec l'élément naturel. Et ces musiques m'intéressent, ces musiques qui viennent de là. Notamment lorsqu'on est originaire d'un pays comme moi, qui est le Mexique, il y a beaucoup de couches. Vous savez, c'est une société à multicouches. Alors il y a quelque chose de très moderne et en même temps, il y a une société très primitive. Et puis il y a tout ce qui est au milieu. Alors pour moi, c'est quelque chose auquel je suis confrontée de manière quotidienne, mais c'est aussi quelque chose qui est complètement occulte et caché. Donc c'est très proche, mais en même temps très éloigné. Et la musique est là, et ce n'est pas que ce n'est pas bien, mais c'est une réalité quotidienne à laquelle on est confronté. Et je sens qu'il est très important d'écouter ces voix. Elles ont beaucoup à nous apporter, que ce soit au niveau musical qu'au niveau personnel, et peut-être cette vision que nous avons aujourd'hui du monde.
Je voulais juste dire, il me venait à l'esprit, que probablement les chefs-d'œuvre ont été créés pour qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les lise pas et qu'on ne les regarde pas. Les grands artistes ont fait ça pour nous débarrasser de ça. Par exemple, le Don Quichotte, j'ai jamais réussi à le finir, mais au fond, je sais à peu près où je crois savoir ce que ça raconte. Et c'est là, c'est fait, faisons autre chose.
Merci, Charles Danzig. Ping-pong. está ya acabado.
Il est temps d'éteindre. Il est temps d'éteindre votre radio si vous ne l'avez pas encore fait pour consacrer ping-pong et ces débats. Merci beaucoup Vanessa Wagner, Fernando Corona, alias Murkoff, Statea, c'est donc votre album, votre association de malfaiteurs, c'est chez Infiné et vous serez en concert au Café de la Danse à Paris, mardi 11 octobre. Quant à vous, Charles Dantzig, vous êtes donc l'auteur des Écrivains et leur monde, Dictionnaire égoïste de la littérature française, la guerre du cliché et Ma République idéal chez Robert Laffont. Et bien sûr, vous êtes sur France Culture tous les dimanches avec vos secrets professionnels.
Le ping-pong est une partition radiophonique qui se bouscule en équipe. Et quelle équipe ? Notamment Mathilde Cadreau qui a passé des mois avec nous à la rédaction de ping-pong, qui est la personne la plus profonde, solitaire et impliquée dans son travail et rieuse.
On dirait le portrait d'une écrivaine.
Que nous connaissons, Mathilde Cadreau. Alors, comment elle est, cette équipe de ping-pong ?
Elle est merveilleuse. Alors, merci à Martin Kenéan et Mathilde Serrel à la production, à Thomas Beau à la rédaction, à Aïssa Touendoy, Jeanne Aléos et Séam Boutata à la rédaction, à Clément Daté et Alex Dang à la technique. Merci à toute l'équipe et à Lila Bozès à qui je passe la raquette.
Merci beaucoup à vous, chère Mathilde.
Demain, Martin.
Eh bien, demain, nous irons faire tomber la nuit blanche, avant la nuit blanche, avec Christian Rizzo et un complice qui cherche lui aussi le son des origines dans les profondeurs d'un tunnel autoroutier. Il est dans la grotte Chauvet.